Coca, Camel, 27 septembre 1985, Edmond. La rentrée à Pierre et Marie Curie se profile, plus que 3 jours pour moi, en 3e année en sciences de la Terre, les vacances sont finies. Vacances bien agréables avec Chantal. Je l'ai rencontrée en juin au bal de promo et, après 2 soirées et 1 nuit, endormis dans les bras l'un de l'autre, nous avions décidé de passer les mois d'été ensemble. Pas très argenté, nous comptions allier les travaux saisonniers dans le midi et les plaisirs de la rivière, de la mer et autres fêtes votives. Les cerises en Ardèche, travail exténuant et lent, suivi du ramassage des abricots dans le gard, abeilles et chaleur. Puis les pêches dans la plaine nîmoise, là aussi les butineuses et la canicule bien présentes. Puis, pour terminer, juste après les lavandes du côté de Barjac, à nouveau l'Ardèche, les vendanges dans l'Hérault, nous étions bruns comme des Robinsons, mais bien plus fatigués. Mais, à part notre superbe entente au jeu de l'amour, nous avions bien peu de points communs et nous nous sommes avoués que nous n'étions pas vraiment amoureux, c'était juste plaisant pour un été et nous avions décidé d'un commun accord d'en rester là. Promesse d'un coup de fil de temps en temps pour se faire une bouffe, sans y croire vraiment, car tout le monde sait que ce sont souvent des promesses en l'air. Je descends relever le courrier. Tiens, une carte postale de Mercedes. Et tout revient. Je souris. Mercedes, l'amour de ma dernière année de lycée. Nous nous sommes perdus de vue dès la sortie. Mais comment est-ce possible? On m'avait raconté qu'elle avait déménagé à l'étranger, aux USA, je crois. Je n'ai jamais eu un modèle et elle ne peut pas connaître mon adresse actuelle. Je réalise que, complètement perdu dans mes souvenirs, le visage de mon premier amour s'est substitué à la représentation d'une jeune femme, d'un tableau. Machinalement, je retourne la carte, écrit en tout petit « La liseuse Fragonard ». Curieux de savoir qui peut m'envoyer cette reproduction, je m'aperçois qu'elle ne m'est pas adressée. Le facteur s'est encore trompé d'immeuble, un peu récurrent depuis quelque temps, à croire qu'il se débarrasse du courrier. Il faut dire pour sa défense que dans le bloc d'immeubles, ici à Tolbiac, il y a de quoi se perdre, alors le courrier, vous pensez? J'habite ici depuis le début de mes études supérieures, en colocation, André, Marcel, Manu et Edmond, votre serviteur. Surnommés les 4 mousquetaires, allez savoir pourquoi, il est vrai que nous fréquentons la même section de Jussieu, nous nous entendons super bien et ici à Tolbiac, nous sommes sur la ligne de métro qui nous conduit directement au campus. Immobile, la carte postale au bout des doigts, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai vu Mercedes si présente. La pose peut-être. Mercedes, si studieuse au lycée, sa coiffure, ses joues légèrement rosées. Elle rougissait facilement et si d'autres se moquaient, moi je craquais. Un peu en chevalier servant, je la défendais toujours. Je n'avais pas vu, mais le timbre est américain. Je ne peux m'empêcher de lire le texte, qui ne m'est pourtant pas adressé, indélicatesse bien excusable, puisqu'elle est venue toute seule dans ma boîte. J'ai visité la National Gallery d'Art à Washington et je suis tombée en arrêt devant ce tableau. La ressemblance est si frappante, tu ne trouves pas? À bientôt, nous devons espérer toujours. Je t'embrasse. Signé, Dan. Le soleil aveugle le studio, je ferme un peu les volets, la carte toujours dans la main. Je ferme un peu les volets, la carte toujours dans la main, et je me cale dans mon vieux fauteuil à oreillettes, enfin celui de mon grand-père, en cuir bien élimé, mais que je ne changerai pour rien au monde. Je lis et relis ce texte un peu sibyllin, et plus je regarde la photo, plus je trouve de ressemblance. Je suis troublé, il me semble que Mercedes est assise à mon petit bureau et qu'elle est absorbée par sa lecture. Le lycée avait organisé pour les classes de première une semaine culturelle à Fontainebleau. Nous avions investi la ferme auberge des Amis de la Nature, appelée Coquibus, perdue au milieu de cette magnifique forêt sableuse. C'était un vrai retour à la nature sauvage, voulu par notre prof de sciences Nat, car effectivement, cette auberge était sans courant, tout fonctionnait au gaz, y compris l'éclairage. C'est après la visite de la chapelle de Saint-Blaise-les-Simples, à Milly-la-Forêt, ornementée par Cocteau, que je me rendis compte de la présence réelle de Mercedes. Quand je dis réel, cela veut dire que subitement, Mercedes prit de l'épaisseur, du volume. Pourquoi cette naissance, à ce moment? Une attitude, une remarque, un geste, le caractère sacramental des lieux, la beauté artistique de l'endroit, nul ne saura jamais, mais de camarade de classe que je défendais à l'occasion, elle devint la personne vraisemblablement la plus importante de ma vie. Mais était-ce réciproque, elle si réservée, ne dévoilant jamais ce qu'elle pensait. En reprenant les assiettes pour la vaisselle du repas du soir, je lui pris les mains. Elle me les laissa, le rouge lui montait aux joues. Je compris, sans une parole, sans un geste, que c'était partagé, tout était dans le non-dit. Pourquoi cette apparition et ce texte nébuleux? Ce Dan, qui est-ce? Il ne peut connaître Mercedes. Je ne sais pas combien de temps je reste perdu dans mes interrogations, submergé par un sentiment étrange. Je ne dis pas que j'avais oublié ma timide et passionnée adolescente, mais j'avais beaucoup souffert lors de son départ, et lorsque je pensais à elle, au souvenir de nos jeux érotiques, le rouge me montait au front. Oh, pas un rouge de honte, mais bien une chaleur qui envahissait mes sens, me faisait perdre la raison, et alors je pleurais son absence. La source des souvenirs pleure et ne désaltère pas. Grâce à un travail acharné sur moi-même, je m'étais rendu à l'évidence. Mercedes était sortie de ma vie, je ne la reverrai plus. Un premier amour ne s'oublie jamais, mais il ne doit être qu'un souvenir heureux. Et puis, Chantal m'avait réconcilié avec l'ouverture de soi à une autre femme, aux relations sexuelles que j'avais bannies. Elle ne saura jamais le bien qu'elle m'a apporté. J'avais enfin rangé Mercedes quelque part au tréfond de ma mémoire. Et maintenant, cette carte. La journée passe dans la pénombre et j'ai reporté tout ce que je devais faire pour la rentrée. Je me couche tôt, dos à la fenêtre grande ouverte, contre le clair de lune. La brise gonfle le voile devant la fenêtre, adoucit l'air chaud de la chambre, effleure, caresse, agace mes sens émerveillés au souvenir de notre jeune découverte. Je veux dormir, il le faut. Je remettrai cette carte dans la boîte aux lettres du destinataire, c'est deux blocs plus loin, le bloc O, alors que nous sommes au bloc D. Je suis vraiment trop intriguée. J'ai dormi, ou plutôt j'ai rêvé à demi-éveillé, un état où on dirige son rêve, on pense même à le maîtriser, mais je crois que c'est pour mieux nous tromper, mais... As-tu déjà touché un pétale de pivoine? Tu vois, elle avait une peau de cette texture-là, douce, lisse, mais qui accroche le doigt, la main. Quand je lui touchais le corps, à l'intérieur de moi, je tremblais, je pleurais de bonheur, d'extase, et à l'extérieur, je tremblais de désir, de hâte, d'excitation, j'avais envie de mordre, il m'arrivait d'ailleurs de le faire. Elle devenait féline, elle préférait griffer, c'est comme ça que je savais que nos sentiments étaient partagés, nous perdions le contrôle de nos sens. L'arrivée de cette carte a fait remonter tout en moi ce que je croyais effacer, mais non, tout est si présent. Sa joue pêche, couverte d'un petit duvet blond, imperceptible, pêche, je vous dis. Cette douceur, quel souvenir! Il fallait remonter au lobe de l'oreille pour retrouver la pivoine. Je me suis quand même endormie, profondément assommée par la fatigue, et d'autres rêves sont venus hanter mon sommeil. Une jeune fille studieuse, le rossignol qui chante le retour du printemps, des bateaux à l'étrave fendant la mer, la proclamation des résultats au bac. Je me suis levé un peu vaseux. Mon Dieu, quelle mauvaise nuit passée! Une douche bien chaude, suivie d'une froide, m'ont remis les idées en place. Un bon petit déjeuner, deux œufs sur le plat avec des petites saucisses et un morceau de baguette beurrée achève de me remettre d'aplomb. Vers 11 h, j'arrête mes révisions et je reprends cette carte que je n'arrive pas à extraire de mon esprit. Je la prends et la relis encore une fois. Oui, il y a un air de ressemblance avec le modèle de Fragonard. Je décide d'aller distribuer la carte à la bonne adresse. Je traverse le parc en diagonale en passant par le petit square, celui où les canards s'ébrouent dans le plan d'eau, et j'arrive devant l'immeuble haut. Je lis les étiquettes du panneau situé dans le hall du bloc et je trouve A. Lambert, veuve Mannering. « Mon Dieu, me dis-je, Mannering, le nom de Mercedes. Impossible d'amorcer un geste, submergé par une émotion indescriptible, je suis figé. Néanmoins, un peu de lucidité persiste. Si je mets cette carte, comment vais-je pouvoir en savoir plus? C'est mon passe, ma chance d'en savoir plus, et peut-être, oui, j'ose espérer, de retrouver Mercedes. Les mots de la carte postale dansent devant mes yeux. Ma vue se brouille et, comme un automate, je sonne. Mon cœur déchire ma poitrine, j'essaie de respirer profondément. Pas de réponse. Je sonne encore, je me calme. Je vais revenir plus tard. La porte du mystère est entrouverte. Oui, tout d'un coup, je me souviens que le frère de Mercedes s'appelait Daniel. Je l'avais complètement oublié, mais je ne le connaissais que par sa sœur interposée. L'interphone grésille et une voix douce m'interroge. « Oui, c'est pourquoi ?» J'explique, en essayant de ne pas bafouiller, que j'ai une carte postale des USA qui a été déposée par inadvertance dans ma boîte aux lettres. « Merci, vous n'avez qu'à la glisser dans ma boîte. »« Non, non, je dois vous la remettre en main propre, c'est important. »« Bien, je ne vois pas bien pour quelle raison. » « Je vous expliquerai, soyez gentil, recevez-moi, c'est au sujet de Mercedes. »« Mercedes, vous connaissez Mercedes? Comment? Où? Je vous ouvre. » La porte fait ce petit clic caractéristique du déclenchement électronique. « C'est au quatrième, palier de droite, directement en sortant de l'ascenseur. Je vous attends, je prépare une tasse de café. » Comme un amoureux au premier rendez-vous, je ne prends pas l'ascenseur. Mon cœur battant à tout rompre, j'arrive presque essoufflé. Une femme se tient dans l'embrasure et la ressemblance avec Mercedes me saute aux yeux. Elle tortille ses mains, mais un sourire se dessine et me demande d'entrer. « Je vous en prie, asseyez-vous et dites-moi vite qui vous êtes, bien qu'il me semble le deviner. Vous êtes son petit ami, n'est-ce pas ?» Je voudrais l'interrompre pour lui demander où elle est, si je peux la voir, mais elle enchaîne phrase sur phrase. Son discours est peu clair. Elle parle de sa fille si heureuse qu'il lui avait avoué être amoureuse, mais au travers de ses paroles, je devine un drame. Prenant mon courage à deux mains, je crie presque « Mercedes, où est-elle? Je veux la voir !»« Bien sûr, vous pourrez la voir. Vous savez, depuis l'accident... » Des sanglots la secouent et je ne sais comment me comporter. Je m'approche, je m'assieds à côté d'elle et elle tombe contre mon épaule. Pendant un moment, qui me semble une éternité, elle se calme. Et déjà, elle me tutoie. « Excuse-moi, je vais tout te raconter. » Mon mari, pour la récompenser d'avoir réussi son bac avec brio, lui avait offert un voyage surprise en Égypte, les pyramides de Gizeh, le Sphinx, l'oasis du Fayoum et sa nécropole, un trek en dromadaire dans le désert égypto-libyen. Son groupe a été pris dans une tempête de sable. Toute la méharée s'en est sortie, sauf mon mari qu'on n'a jamais retrouvé, et Mercedes, récupérée in extremis, mais dans le coma, puis amnésique. Aujourd'hui, tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. Par exemple, moi, elle me reconnaît, même si ce n'est plus la même chose qu'avant. C'est très dur, tu sais. Par contre, elle sait qu'elle était amoureuse d'un garçon, mais elle ne sait plus de qui. Elle me dit qu'elle le voit rayonnant dans le soleil, et quand elle s'approche pour lui parler, il s'estompe dans une sorte de brouillard gris et il y disparaît. Chaque fois, c'est une scène de larmes, elle en connaît l'importance et c'est, pour ainsi dire, la seule chose qu'elle doit encore retrouver. Les médecins et moi-même, la psychologue, avons tout fait pour essayer de lui gommer cette image qui la torture et l'empêche d'avancer. Je me suis rendue au lycée pour trouver un nom, j'ai interrogé ses camarades de classe. Rien, même sa meilleure amie n'avait rien soupçonné. Je la laisse parler, suspendue à ses phrases, parfois haletante. L'accident laisse dans sa mémoire une sombre image qui implose et l'empêche de retrouver le nom de celui qu'elle aime. Chaque fois que je vais la voir, elle me raconte la même chose. C'est comme une main tendue par-dessus le temps, qui tâtonne, qui cherche et qui quémande la mienne. Elle frôle ma joue avec une délicatesse ancienne, plus douce que la fraîcheur du soir. Mes oreilles, subitement attentives, écoutent avec ravissement cette voix qui monte, se cristallise dans l'air, puis, sans avertissement, s'effondre dans l'ombre. Oui, je sais par cœur ces phrases qui paraissent terriblement romantiques et qu'elle me déclame presque comme au théâtre. Elle est, pour l'instant, soignée dans une maison de convalescence suite à une dépression sévère, mais son médecin m'affirme que, théoriquement, elle pourrait reprendre ses études en octobre prochain si elle en avait le désir. Mais je sais maintenant, vous êtes là et c'est miracle, nous allons la sortir de ce tunnel sans fin. Je ne comprenais pas son silence, son téléphone était sans cesse sur messagerie, puis le numéro ne fut plus attribué, et lorsque je me suis rendu à votre adresse, l'appartement était en vente et une voisine interrogée m'avait parlé d'un départ pour l'Amérique, alors je me suis dit que je l'avais tout simplement perdue et surtout qu'elle voulait rompre tout contact avec moi. Je n'ai jamais imaginé l'histoire effrayante que vous avez vécue. Oui, tout va rentrer dans l'ordre, je le sais. Oui, je l'espère vraiment. Je suis devant l'autel de la chapelle de Saint-Blaise-des-Simples, décoré par Jean Cocteau, les dessins épurés, presque naïfs, m'émeuvent plus que ce jour béni où Mercédès les regardait avec moi. Je me souviens qu'elle en adorait le bleu et les feuillages, la sépulture toute simple de ce poète. J'entends des pas derrière moi. Je me retourne. Mercédès lâche la main de sa mère, hésite, étonnée, puis accourt vers moi et, dans un murmure, bas à l'oreille, j'entends « Edmond !» Je m'attendais à des baisers, à une étreinte pleine de passion, mais, m'écartant un peu de ce corps retrouvé, je vois des yeux qui ressemblent à deux plans d'eau insondables d'un ton de noisette sauvage, parsemés de paillettes d'or, comme des feuilles mortes flottant sur l'étang. Ils sont d'une brillance triste dans la lumière de la chapelle et, hélas, le reflet de son cœur. Soudain, entre les deux pétales de ses paupières, une larme translucide éclot. Je dois me rendre à l'évidence, elle m'a reconnue, mais elle ne se rappelle aucun de nos moments intimes. Je reste seulement son camarade de classe.